One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Je m'appelle Julie Marceline Pujol et je suis journaliste. Vous écoutez Nude, le podcast qui met le monde à nu à travers des histoires intimes, vraies et extraordinaires. Tout d'abord, je suis ravie de vous retrouver. Si vous suivez Nude depuis un moment, vous vous demandez peut-être pourquoi le rythme de publication a un peu changé. Alors je vous ai préparé un mini hors-série pour vous donner des nouvelles et quelques explications. Il est disponible si vous voulez aller l'écouter, je le publie le même jour que ce nouvel épisode. Perdre la mémoire à 20 ans, c'est ce qui est arrivé à Élodie. À l'âge où l'on se construit les souvenirs de toute une vie, elle s'est battue contre un mal étrange et invisible qui effaçait tout. D'abord des fragments de sa vie, puis peu à peu, tout ce qu'elle avait appris, jusqu'à oublier son propre nom. Élodie Durand en a fait une bande dessinée, La Parenthèse, que j'ai lue il y a plusieurs années. Et elle m'a tellement marquée que j'ai eu envie de la contacter. Pour Nude, plus de 10 ans après la sortie de sa BD, je lui ai proposé de revenir sur cette histoire.
J'ai écrit La Parenthèse pour ne plus oublier, pas oublier ce qui s'était passé, et surtout aussi pour ne plus avoir à parler de cette période. Okay. Alors 10 ans après, j'accepte d'en parler, c'est ça qui est un peu bizarre. Mais bon, il y a le temps à passer, moi je suis beaucoup plus sereine. Mais là, ce qui est très curieux, c'est ce sentiment toujours que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Je devais avoir 21 ans, j'étais à la fac, j'étais en art plastique. J'ai commencé à avoir des absences. Pendant ces absences, je disais des choses un peu bizarres. Apparemment, j'avais des sortes de haut le cœur. Et puis autour de moi, je devenais très blanche aussi. Les gens qui m'entouraient me le signalaient, mais je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait. Et après, une absence, après la crise, une perte de mémoire de ce qui s'était passé avant.
Élodie consulte alors un neurologue qui lui annonce qu'elle souffre d'épilepsie, des crises qui provoqueraient des pertes de mémoire.
Quand il me dit ça, je dis que je peux pas être malade puisque j'ai jamais été malade de ma vie. Je n'ai même pas eu la varicelle. J'essaye de trouver des raisons pour lui prouver que son diagnostic est faux. Puis surtout qu'on me dit que je vais prendre des médicaments à vie et que l'épilepsie, c'est pour la vie. Alors je raconte que je l'ai insulté dans le livre, mais moi je m'en souviens pas, évidemment. C'est plus facile de pas se souvenir de certaines choses qui sont pas glorieuses. Puisque j'arrivais pas à voir qu'il se passait quelque chose, je voyais pas pourquoi j'avais besoin de me soigner. Il fallait que je comprenne qu'il se passait quelque chose, même si je m'en souvenais pas.
Le déclic viendra d'un voyage en Bretagne et d'une crise bien plus violente que d'habitude.
Un jour, pendant ces vacances, je me suis retrouvée en pleine rue sans savoir ce que je faisais dans cette rue. J'avais aucune idée d'où je me trouvais, qu'est-ce que j'avais fait. On était en plein milieu d'après-midi, qu'est-ce que j'avais fait avant, qu'est-ce que je m'apprêtais à faire. Aucune idée, c'était le trou total. Ça m'a fait comme un choc. J'ai compris que probablement il se passait quelque chose d'étrange. En tout cas, le ressenti qu'il s'était passé quelque chose, il était là. Et c'était peut-être la première fois que je l'avais.
Élodie retourne voir son neurologue et accepte cette fois de prendre un traitement. Mais il ne fonctionne pas malgré des doses toujours plus fortes. À l'époque, Élodie est encore chez ses parents. Et pour finir ses études d'art plastique, elle doit rédiger un mémoire. Mais son état s'aggrave, les absences deviennent de plus en plus fréquentes. Et les médicaments lui donnent envie de dormir en permanence.
J'ai eu tout un temps où j'ai fait un peu semblant de travailler. Pour le mémoire, ma mère m'a raconté que je disais souvent ça, je vais travailler, et que je restais avec le livre toujours à la même page. Je travaillais sur Robert Motherwell à cette époque, un artiste américain. Et j'avais juste le nom de cet auteur et puis le verbe et le verbe être. Et puis je tournais ce sujet et ce verbe dans les deux sens, mais j'arrivais pas. Il n'y avait pas de complément, il ne se passait rien. Je ne sais pas combien de temps j'ai essayé. Et puis à un moment donné, j'ai dit que j'y arrivais plus. Et là, j'ai lâché complètement les études. J'ai avoué que j'arrivais plus du tout à rien faire. Et là, ça a été le début de, je pense, où la maladie a pris toute la place. D'un seul coup, l'univers change. J'arrête mes études. J'ai dû arrêter le travail que je faisais. J'étais animatrice dans les centres de loisirs. J'ai arrêté ça très rapidement parce que si je faisais des crises devant les enfants, c'était pas possible. J'étais plus responsable de moi pendant quelques instants et il n'était pas question que je sois responsable d'un groupe. Il n'y a pas de choix, en fait. C'est ça qui se passe. Je vivais le moment avec plus vraiment d'idées pour se projeter dans l'avenir. Ça devient cette maladie qui devient complètement le présent.
Les rendez-vous médicaux s'enchaînent, sans réponse et sans solution. On lui prescrit un scanner, puis un IRM. Les médecins ne décèlent aucune anomalie. Jusqu'au jour où il soupçonne une maladie dont elle n'a jamais entendu parler.
Les médecins, finalement, ont vu quelque chose qui est assez caché. Je me souviens que j'avais pris l'habitude de prendre des notes. Et là, j'avais retenu, ils soupçonnaient deux choses, l'astrocytome et autre chose, un ganglioneurone, je crois. Et le médecin m'avait dit ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et moi, j'avais noté ce qu'il fallait que j'ai, en fait. J'avais noté ça un peu de façon étrange, parce que à côté de l'astrocytome, j'avais noté égal non. Et puis, à côté de l'autre chose, j'avais mis oui. Et puis finalement, quand j'ai appris ce que c'était, je suis vite allée voir sur mon carnet de quoi il s'agissait. Et il y avait marqué que c'était celui qu'il ne fallait pas avoir. Et c'est un astrocytome, une sorte de tumeur qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu et qui est un peu dévastatrice. Il s'avère que là, il n'y a pas de cas similaire et ils n'ont pas d'idée de comment me soigner. C'est pas accessible, on peut pas opérer. Mais ils savent que c'est suffisamment grave pour que je perde la vie.
Son père passe à mi-temps, puis sa mère arrête de travailler complètement pour s'occuper d'elle. Peu à peu, elle perd tous ses repères.
Il y a toute cette période où vraiment je suis très mal. Je me lève, je me lave parce que ma mère me le demande, donc j'arrive à faire encore ça. Souvent, une fois que j'ai déjeuné, je me suis lavée, je vais vite me recoucher parce que je suis épuisée. Et puis peu à peu, il n'y a plus aucune autonomie, quoi. Je ne suis plus capable ni de me faire à manger, ni de prévoir quoi que ce soit. Dans la bande dessinée, je raconte que je suis dans la cuisine avec ma mère et elle épluche les pommes de terre. Et en fait, moi, entre le moment où elle a fini d'éplucher le saladier et le... en fait, moi, je suis toujours à la première pomme de terre. Ben voilà, le saladier, il a été tout épluché, toutes les pommes de terre ont été épluchées, mais moi, j'ai rien vu. Et j'avais ces petits moments comme ça où je me rendais compte que quand même, il se passait quelque chose, quoi, de très étrange. Là, à cette époque-là, c'était tellement fugace que j'étais étonnée. Et puis, en fait, comme je retombais tout de suite dans le... où j'étais plus vraiment là. Et j'avais juste le temps d'être étonnée. Et puis, c'était tout. Il n'y avait pas le temps d'autre chose. Je vais suivre ma mère partout, jusqu'aux toilettes. En fait, je la suis. Et il ne se passe rien d'autre dans ma vie. J'étais devenue comme un enfant, en fait. Hein. J'avais plus d'autonomie. Et donc, un peu comme un enfant, je suivais mon repère. C'était ma mère. Quand j'y repense maintenant, je trouve ça complètement dingue. J'étais une jeune adulte prête à partir de la maison. J'aidais à la maison, je participais aux tâches ménagères. Et puis d'un seul coup, mes parents se retrouvaient avec un jeune adulte qui faisait plus rien et qui n'était même pas capable. Ma mère raconte que je n'avais pas idée même d'aider. Et c'est vrai que cette fameuse histoire des pommes de terre, là, je me souviens de mon sursaut, de mon étonnement. Et puis, je m'étais questionnée à ce moment-là. Je m'étais demandé si, dans ma vie, j'avais déjà épluché une pomme de terre et si je savais éplucher une pomme de terre. Et puis, pouf, après, je suis retombée dans une espèce d'absence, quoi. Donc, je n'ai pas été plus loin dans ma réflexion. Mais c'est complètement fou. Je trouve ça fou d'avoir tout un savoir-faire, plein de choses qu'on pense acquises pour toujours. Et puis qu'il s'avère ce qu'on pense acquis l'est pas forcément, et que finalement il n'y a rien qui est pour toujours, et qu'on peut se retrouver très rapidement dans des situations qu'on n'avait même pas imaginées. Je découvre que je ne sais plus compter, que je ne sais plus additionner, multiplier, que je ne connais plus mon alphabet. Et là, pour moi, c'est affolant, quoi.
Est-ce que vous oubliez aussi vos souvenirs de quand vous étiez enfant, par exemple, à ce moment-là ?
Oui, oui, j'oublie tout. Plus de souvenirs, plus de... Pour moi, ce n'était pas flagrant. Et le fait de perdre la mémoire aussi, ça m'a beaucoup aidé à vivre cette maladie, je crois.
Paradoxalement ?
Oui, le fait de ne pas être conscient... Ben, c'est plus simple. Finalement, c'était plus compliqué pour tous les gens qui m'entouraient, qui, eux, étaient conscients et comprenaient bien ce qui se passait. Du coup, la douleur, elle était loin de moi.
Les souvenirs qu'Élodie raconte ici et dans la bande dessinée, c'est une mémoire qu'elle a reconstituée avec l'aide de ses proches. De cette époque où son état se dégrade continuellement, l'unique souvenir qu'elle a conservé et celui de sa maman.
C'est incroyable ce qu'elle a fait pour moi, de s'occuper de moi. En fait, elle n'avait aucune idée de combien de temps cette situation allait durer. Elle raconte, oui, elle n'avait pas le choix, en fait. Elle était là, présente, et puis dans ce noir et dans ce long sommeil, il y avait un repère humain, et c'était ma mère. Dans mes nuits, je l'appelais, un peu comme... comme on fait quand on est enfant et qu'on sait pas quoi faire. Et je l'appelais maman. Peut-être que ça a été un peu comme une petite lumière. Ça m'a de toute façon aidée, je peux pas mesurer combien.
Un jour, Élodie demande à se rendre seule chez sa sœur qui habite dans la même ville.
Comme ma mère n'a pas l'habitude que je demande quelque chose, elle me laisse aller me rendre chez ma sœur seule, mais elle décide de me suivre, de me laisser partir seule. Il s'avère que je ne prends pas du tout le chemin pour aller chez ma sœur, mais le chemin presque opposé. Je fais peut-être une demi-heure de marche et elle me retrouve au milieu de la rue. Elle va s'approcher de moi parce que je parais paniquée. Et là, elle s'approche de moi, je ne la reconnais pas. Donc elle me dit que... Ben, que c'est elle. Et puis je répète inlassablement que je ne sais pas où je suis, que je ne sais pas où est ma maison. À ce moment-là, je ne sais pas trop pourquoi, elle me demande comment je m'appelle. Et là, je m'aperçois que je ne connais plus mon prénom, que je ne sais pas comment je m'appelle. Just like in Sweet Blur, those ones have completely loved their mind. They just breathe what a life gave. Yesterday everything was clear. You blow my mind indeed. I like us to be full enough. I like us to be alive enough to live this lazy life. Je vais continuer à prendre des médicaments, toujours de plus en plus fort. Et puis les médecins vont faire appel à leurs confrères à l'étranger, dans le reste de la France, et il s'avère qu'il y a une machine qui est toute nouvelle, il n'en existe qu'une en France, elle s'appelle le Gamma Unit, et il y a un médecin qui va proposer de tenter de me soigner via cette machine, par des rayons, une sorte de rayon laser, de multiples rayons qui viennent en quelque sorte brûler la tumeur. Everything is gonna be better.
C'est cette machine, unique en France à l'époque, qui va sauver Élodie. Un an et demi après l'intervention et après une grosse complication, on lui annonce que la tumeur est finalement nécrosée. Autrement dit, elle est guérie.
J'ai eu tellement de chance de m'en sortir si bien. À 30 ans, là aussi c'est un moment complètement inattendu et complètement extraordinaire. J'apprends que je peux arrêter les médicaments. Et que je vais pouvoir vivre sans médicaments. Bah ouais, c'est extraordinaire, un espèce de soulagement qu'il y ait quelque chose qui se termine. Par exemple, le jour où je suis sortie du cabinet du docteur, du neurologue, et qu'il m'a dit que je ne prendrais plus de médicaments, je suis sortie, je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré de joie. Je riais, je sanglotais, je me suis assise sur... je sais plus, dans un banc là dans le quartier, et puis là il y a un petit groupe de gens plus jeunes qui sont passés là et qui m'ont dit mais qu'est-ce qui vous arrive madame, et puis là je leur raconte que je prends des médicaments depuis des années et puis qu'aujourd'hui ça s'est arrêté, et là ils étaient trois gaillards, ils me disent mais on ouvre le champagne, donc on était là tous les quatre à fêter ça, et donc c'était les premiers que j'ai avertis, des gens que je connaissais pas. Il y a plein de choses qui reviennent toutes seules au fur et à mesure. Je vais aussi m'exercer à réapprendre des choses, à noter des mots dans le dictionnaire, même parfois à noter des phrases entières pour pouvoir parler plus simplement avec d'autres. Je vais aussi commencer à dessiner beaucoup, des petits dessins très rapides de quelques secondes. Puis en fait, il y a un bonheur de toutes les premières fois, de tous les possibles, ne serait-ce que de pouvoir sortir une heure et demie, être éveillé, et tout devient un peu magique. Beaucoup de gens qui ont vécu des problèmes de santé très importants et qui ont une convalescence ont ce sentiment-là de joie intense et une joie de vivre tellement forte, c'est complètement féerique. Quand j'ai commencé vraiment à aller mieux, je me prenais moins la tête. En fait, il y avait toujours des petits refrains qui venaient de profiter, que j'avais rien à perdre, qu'il fallait oser, risquer même pour apprendre des nouvelles choses et pour peut-être que oui, moi ça m'a peut-être appris ça, et qu'on peut tout perdre en fait. Donc il faut profiter de ce qui est possible sur au moment où je parle là où. Tout ce qui est possible aujourd'hui, c'est pas forcément possible demain. Donc il faut profiter de tout ça. Donc ça peut aider à décider plus rapidement.
Après sa convalescence, Élodie reprend les études et elle entre aux Arts décoratifs, une des meilleures écoles d'art. Il y a tout à réapprendre, tout à vivre. Et des années plus tard, tout à raconter dans cette bande dessinée, La Parenthèse.
Aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'avoir des pointillés parce que j'ai reconstruit un peu ces années en témoignant et en l'écrivant dans La Parenthèse. Et écrire La Parenthèse, ça a aussi permis à plein de gens de la famille, c'est pas mes parents, hein, mais de comprendre ce qu'ils avaient traversé. Parfois, ils n'avaient pas imaginé en fait que c'était si grave. Et puis après, il y a eu aussi toute une aventure après la sortie de La Parenthèse. Qui a été assez extraordinaire, avec beaucoup de retours de lecteurs, beaucoup de messages, et même encore aujourd'hui. Alors ça, c'est incroyable, quoi. C'est une histoire, une autre histoire qui vit toute seule grâce à un livre, et puis qui continue son chemin, même encore aujourd'hui.
La Parenthèse a été traduite en plusieurs langues et continue son chemin, désormais autour du monde. Élodie Durand est toujours dessinatrice et autrice. Elle qui a perdu puis retrouvé le souvenir de son histoire, aime aujourd'hui raconter celle des autres. Sa dernière BD, Un monde si grand, mais aussi La Parenthèse et ses autres livres, sont à retrouver chez votre libraire. Merci beaucoup Élodie pour ce témoignage et pour votre confiance, et merci à vous, chers auditeurs. Les musiques de cet épisode ont été composées par le génial Pascal Janssen. La voix féminine que vous avez entendue est celle d'Emily Satt sur son inoubliable morceau « You Blow My Mind ». Et le générique, lui, est toujours signé du talentueux Jean-Carl Lucas. Pour les connaisseurs de Nude, vous reconnaîtrez ces deux derniers noms. Retrouvez-moi sur Instagram @NudePodcast. J'ai toujours grand plaisir à échanger avec vous sur les épisodes. Et si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et soutenez-moi en le partageant sur vos réseaux sociaux et autour de vous. C'était Nude, le podcast qui met le monde à nu à travers des histoires vraies, intimes et extraordinaires.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.